Bonjour, ici Célia Héron, hôte et coproductrice du podcast Brise-Glace. Avant de vous laisser plonger dans notre toute nouvelle série audio, il n'y a qu'à m'expliquer, un mot pour vous signaler que les podcasts du temps se développent. Découvrez Sous la Coupole, notre podcast d'actualité politique, et bien d'autres encore sur la page letemps.ch/podcast. Et j'en profite pour vous dire que vous pourrez bénéficier de nombreuses offres d'abonnement web et print sur la page letemps.ch/abonnement au pluriel. Bonne écoute!
J'ai dû un peu broder, j'ai dû minimiser un peu l'histoire, j'ai dû dire bon, voilà, j'ai dû partir un peu vivre là-bas parce qu'il y a une petite entreprise qu'il faut que je gère. Mais du fait que j'ai pas beaucoup changé ma manière de vivre ici, ça a été facile à cacher. La partie là-bas, c'est un peu plus différent. J'ai des amis qui sont là, oh, mais j'aimerais tellement aller là-bas. Déjà, moi, je suis là, oui, mais tu sais, j'ai pas la place. Si tu veux, je te donne le nom de super appart-hôtels qui sont pour pas cher, qui sont pas trop loin de la plage, etc., etc. Mais je redoute un peu le jour où quelqu'un m'attrapera dans mes mensonges, enfin dans ma dissimulation de la vérité.
Bienvenue dans la saison 4 de Brise-Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on n'ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. De quoi hérite-t-on vraiment à la mort d'un parent ? Leïla, trentenaire romande, est enfant unique. Lorsque son père décède dans son pays d'origine, au Moyen-Orient, elle doit faire face au deuil, puis très vite à ses responsabilités. Ce dernier lui lègue une entreprise d'envergure internationale, des villas, des comptes en banque contenant plusieurs dizaines de millions d'euros. Commence une double vie, l'une en Suisse, où elle évolue dans la classe moyenne, et l'autre dans le pays de son père, où les employés de maison l'appellent Madame Leïla.
Je m'appelle Leïla, j'ai bientôt 40 ans et je suis de la région de Suisse romande. Alors, ma mère est suissesse, d'origine modeste, enfin moyenne, et mon père vient d'un pays du Moyen-Orient, où il a grandi dans une famille assez riche. Ses parents venaient d'un... Enfin, c'était un mariage arrangé entre deux grandes familles qui voulaient justement réunir leurs richesses. Et son père, donc mon grand-père, est quelqu'un qui est parti de rien et qui a créé une société de ses mains qui a pris une belle envergure que mon père a continué de faire grandir.
Et est-ce que justement le fait que votre mère ne vienne pas du tout du même milieu social ne posait pas particulièrement en question ?
Non, pas que je sache, parce que déjà pour le pays d'où mon père venait, une femme qui était étrangère, c'était une femme qui était plus éduquée que la moyenne là-bas, et du fait qu'elle parlait déjà plusieurs langues, c'était déjà quelque chose de chic.
Donc ils se sont rencontrés là-bas, ils se sont aimés, vous êtes nés.
Mm-hmm.
Vous aviez quel âge quand ils se sont séparés ?
J'avais 3 ans. Donc j'ai grandi avec ma maman, qui s'est remariée, a eu 2 autres enfants, et on a grandi à la campagne. Et je dirais qu'on n'était pas aisés, mais on n'a jamais manqué de rien.
Qu'est-ce qu'elle faisait, votre mère ?
Elle faisait family office à la maison. Donc elle travaillait depuis la maison pour une grande famille de la région genevoise. Et mon beau-père, lui, il a fait toutes sortes de petits jobs, et son dernier job, il faisait la sécurité, les 3-8.
Donc, enfance, voilà, classe moyenne.
Complètement. Dans les valeurs que finalement ma maman et mon beau-père nous ont transmis, c'était plus important d'avoir des moments et des expériences plutôt que des choses. Donc, il me semble que les plus grosses dépenses qu'ils avaient faites, c'était pour qu'on parte tous en vacances. Si je me souviens bien, c'était le Club Med, parce que ça arrangeait les parents que les enfants soient pris en charge, et les enfants s'éclataient. Alors c'était une dépense certes, mais au moins ils étaient sûrs que tout le monde était content. Et puis du fait que ça arrivait pas souvent, enfin on les méritait, on était content quand ça arrivait.
Est-ce que à partir du moment où le divorce a été prononcé, il y a eu une pension qui vous a été proposée par votre père ? Comment est-ce que se gérait l'argent au sein du foyer en termes de votre budget à vous, l'argent de poche, etc.
Finalement, pour ce que gagnait mon père, la pension était assez ridicule, mais ma maman, avec toute sa fierté, elle lui avait dit « Si c'est pour ta fille, voilà, ça couvrira les excursions. Au moins, bah, tu sais que si elle doit faire des camps de ski ou des cours en plus ou quoi que ce soit, elle pourra se les permettre. » Et pour l'argent de poche, je pense que j'avais la même chose que mes copines, parce que c'est vrai que des fois, on devait attendre une semaine, un mois pour pouvoir s'offrir soit les baskets qu'on voulait, soit le t-shirt qu'on voulait. On devait gérer notre budget, on n'avait pas... Même si ma maman en percevait un petit quelque chose, elle le mettait de côté pour moi, et si c'était pas dépensé, c'était pas dépensé. Elle se disait, bon, ben voilà, si une fois il y a un gros truc, au moins elle a quelque chose de côté. Mais par rapport à mes copines ou même par rapport à mes demi-frères et sœurs, il n'y avait pas de différence. On était tous logés à la même enseigne.
Est-ce que vous avez le souvenir de discussions autour de l'argent entre votre mère et votre beau-père ?
Alors, entre eux, non. Mais c'est vrai que mon père, qui lui était reparti vivre dans son pays d'origine, lui était un peu plus méfiant, même par rapport à moi, enfin par rapport aux gens qui l'entouraient, du fait, je pense, qu'il était riche.
Est-ce que vous en aviez conscience, petite ?
Pas vraiment, et en même temps, je voulais pas... Enfin, c'était pas ce qui était important pour moi par rapport à lui. L'intérêt que j'avais pour lui, c'était plus justement comme on vivait déjà éloigné. Il me voyait pas grandir, du coup ça créait certains conflits. Aussi, lui vivait dans une culture différente de la mienne, moi je grandissais à l'européenne, donc c'était déjà assez difficile de maintenir un rapport père-fille, sans en plus rajouter ce genre de questions qui, pour moi, n'avaient pas d'intérêt du fait de, justement de ces valeurs que ma maman m'avait transmises. Mais pour lui, semble-t-il que ça en avait, parce que c'était quelque chose qui, parfois, venait dans les disputes. Si j'avais le malheur un peu de m'opposer à lui, une fois il m'avait sorti « mais je suis pas une banque ».
Vous vous souvenez pourquoi il avait dit ça ?
Peut-être que je disais « ah, mais j'aimerais bien passer tel week-end plutôt avec mes copines et tout ». Et puis, il m'avait fait comprendre que c'était déjà pas facile de pas se voir beaucoup, si en plus le temps qu'il m'avait réservé n'était pas utilisé, ben voilà, ça partait pour rien. Et du coup, je comprenais pas parce que j'avais pas la même optique que lui.
Et est-ce que vous vous rendiez parfois dans le contexte de votre père, du coup, quand vous étiez dans son pays ?
Pas vraiment, puisque lui-même n'était pas quelqu'un qui était très public. C'était un homme d'affaires, mais ce n'était pas une star ou quelque chose comme ça. Il était connu, mais il préférait être discret. Et c'est vrai que pour toutes les fois où je me rendais dans son pays, c'était pour les vacances. Donc les affaires étaient plus ralenties, il n'y avait pas de contexte pour... me mettre finalement dans son milieu social.
Donc à aucun moment, vous avez perçu cette différence entre le milieu de votre mère et le milieu de votre père ?
Alors, je pensais bien qu'il y avait une différence. Après, je ne savais pas jusqu'à combien. Et comme on parle de deux pays différents, finalement, ce qui coûte cher là-bas peut-être ne coûte rien ici. Alors oui, il avait des employés de maison. Il avait une petite dame qui lui faisait à manger, qui faisait le nettoyage. Il avait aussi un chauffeur. Mais en même temps, là-bas, même les couples dans la classe moyenne ont généralement une nanny qui s'occupe des enfants, même si la femme ne travaille pas. Ici, ce serait inconcevable, aussi bien socialement que financièrement. Mais là-bas, c'est très naturel. Surtout qu'ils ne prennent pas forcément des gens du même pays, ils prennent des gens qui viennent de pays encore plus pauvres. Donc, je savais qu'ils vivaient bien, mais je ne savais pas à quel point ils vivaient bien.
À quel moment, alors, est-ce que vous commencez à apercevoir cette différence de milieu social ?
Plus, je dirais, quand je suis vraiment adulte, à partir de la trentaine, quand vraiment on commence à avoir des vraies discussions d'adultes, quand je me rends compte un petit peu, quand il me parle très vite fait de son patrimoine, ça je le sais, il a des actions, il a un peu d'immobilier, c'était 3 maisons dans son pays. Déjà, avoir des maisons, c'était dingue, mais est-ce que c'était aussi dingue qu'ici ? J'avais un peu de la peine à pouvoir comparer. Par exemple, son travail, je ne savais pas exactement ce qu'il faisait. Je ne savais pas quel était son rôle. Alors, est-ce qu'il était obligé d'aller travailler ou bien est-ce que c'était son plaisir de se rendre à un bureau ? Est-ce que le travail était un loisir ou est-ce que c'était un vrai travail ? Ça, c'était quelque chose que j'ignorais.
Vous lui aviez posé des questions à l'époque ?
Non. Non, ça ne venait pas dans la conversation. Et c'est bizarre, mais et peut-être lui-même aussi. Enfin, je pense que j'attendais que ça vienne de lui. Mais il était jeune, il était en bonne santé. Et j'imagine qu'il se disait qu'il avait tout le temps de pouvoir m'introduire, si un jour il le désirait, dans ses affaires. Puis malheureusement, le destin a voulu que ça ne s'est pas fait.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Il a eu un accident. Ça a été soudain, ça a été brutal. Quand je l'apprends, c'est une de ses anciennes petites amies qui me l'apprend. Déjà, quand je vois son nom qui s'affiche sur mon téléphone, je me dis, mais c'est bizarre. On n'était pas en mauvais termes, mais c'était pas une femme qui m'appelait plus que ça. Et puis, elle me téléphone, elle me dit, mais est-ce que tu vas bien ? Je lui dis, oui, pourquoi ? Enfin, mais il n'y a personne qui t'a mis au courant. Ton père a eu un accident, c'est sur les chaînes.
L'accident a eu lieu dans son pays d'origine ?
Oui, il y a moins de 5 ans. Donc, ni une ni deux, je prends ma voiture et je me lance sur l'autoroute et je me dis, je vais prendre le premier vol qu'il y a et ça, c'est tant que je pense qu'il est encore vivant pour être là au cas où il se réveille. Et à ce moment-là, ma maman, que j'ai mis au courant, me fait suivre un article en anglais où je lis accident, décès. Je me dis, oh, mais non, mince, son chauffeur est décédé. Je pense pas un instant que c'est lui qui est décédé. Et quand je lis effectivement l'article et que je vois son nom, je me dis non. Ah non, c'est pas possible. J'arrive pas à encaisser la nouvelle. Je me dis mais c'est pas vrai. Il y a une semaine de ça, on s'était vus. D'ailleurs, on avait eu une super semaine. On avait rigolé. On s'était encore un peu plus rapprochés. Le matin même de cet accident, je lui écrivais encore. On échangeait des blagues. Et à ce moment-là, ma mère me téléphone et tout ce que je peux lui dire, c'est je suis pas prête. Je suis pas prête. Et à ce moment-là, est-ce que je lui dis je ne suis pas prête de le laisser partir ou est-ce que je suis pas prête pour finalement découvrir, devoir prendre en main ce qu'il va me laisser.
Quel genre de message vous recevez à ce moment-là?
On ne me dit pas grand-chose, on me dit juste viens, viens, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. Et effectivement, dans les 24 heures, je suis là-bas, je rencontre son comptable, je rencontre son avocat, je rencontre son assistante, je vois beaucoup de monde dont certains j'ai entendu parler, d'autres pas du tout. Et j'ai beaucoup de papiers à examiner. Je rencontre ses banquiers parce qu'il faut que les comptes soient débloqués. Son avocat apparemment a fait le travail en amont pour que le certificat de décès, le certificat d'héritier soient signés afin que tout se débloque assez rapidement. Et tout se passe dans une langue que je maîtrise, mais peut-être pas autant que je le souhaiterais. Et pas dans des termes juridiques, médicaux, business. Donc je comprends ce que je peux. J'essaie de traduire un maximum avec mon téléphone les termes que je comprends pas. Puis je signe, j'examine, j'écoute, je prends certaines décisions. Ça s'enchaîne très très vite. Et pendant ce temps-là, je suis toujours un peu sous le choc. Je réalise pas. Je n'arrive pas à commencer mon deuil. Et 3 jours après les obsèques, l'enterrement se fait. Et là aussi, il y a une chaîne locale qui a une caméra qui est braquée sur moi, qui suis là, la seule famille avec son frère. Et c'est terrible parce qu'en même temps, je me dis, mais je peux pas pleurer. Je peux pas me laisser aller à pleurer. Il faut que je reste digne, il faut que je sois forte. Je suis son héritière, il faut que je m'en montre digne, il faut que je montre un peu de la force.
Pendant tout ce temps, vous êtes seule?
Alors non. Heureusement, mon compagnon m'a suivie. Il est à mes côtés, il me soutient. Évidemment, il ne parle pas la langue, alors je dois aussi lui traduire tout ce qui se dit. Donc c'est un peu un double effort pour moi de déjà comprendre les choses et en plus de les retraduire. Mais il est là, il est mon coussin émotionnel, il est celui qui me dit « Écoute, prends le temps d'analyser les choses, tu n'as pas besoin de décider tout de suite, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de vivre ça, tu as le droit de dire aux gens de partir, tu n'es pas obligé de recueillir toutes les condoléances de tout le monde, tu as le droit ».
Vous étiez donc sa seule héritière?
Ouais. Il n'était pas marié à ce moment-là et il n'avait pas d'autres enfants. Et dans la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent son décès, je découvre des comptes bancaires qui sont bien garnis. Je découvre la valeur de ses maisons. Je découvre aussi qu'il a des parts d'une grande société qui sont cotées en bourse. En gros, au moment où j'héritais, son patrimoine était évalué à environ 50 millions d'euros. Donc c'est pas énorme comparé aux fortunes qu'il y a dans ce monde, mais pour moi c'était très impressionnant.
Alors c'est quoi le sentiment qui s'est emparé de vous quand vous avez découvert l'ampleur de sa fortune?
C'est une grosse surprise et en même temps il y a gentiment une espèce de syndrome de l'imposteur qui s'installe. Enfin une culpabilité parce que je me dis bon bah, c'est incroyable, enfin il y a tellement de gens qui sont dans le besoin dans le monde et moi j'ai accès à ça. Et en même temps il y a cette terrible petite voix amère qui vous dit mais t'as eu accès à ça parce qu'il est mort. Tu peux y avoir accès parce que lui, il a disparu. Et puis le syndrome de l'imposteur parce que j'ai pas travaillé pour avoir ça. Je l'ai pas mérité.
Qui était au courant autour de vous du fait que vous héritiez de cet homme?
J'ai vraiment trié sur le volet les personnes auxquelles j'en ai parlé. Il fallait vraiment que ce soit des gens qui me connaissent depuis longtemps et en qui j'avais vraiment une grande confiance. Parce que j'avais vraiment peur que ça change l'image qu'ils avaient de moi. Et j'aurais eu peur aussi que ça change nos rapports. Ouais, vraiment peur que ça change. Qu'ils ne me voient plus moi, mais qu'ils voient ce que je représente, ce qu'ils pourraient obtenir.
Il y a eu des circonstances où vous avez vraiment senti cela?
Alors, pas par rapport à mes amis, parce que c'est vrai, enfin, là je me félicite, j'ai quand même choisi les bonnes personnes. Mais plus, il y a eu un ami à mon père qui a surgi vraiment de l'oubli que je connaissais. Qui tout d'un coup est arrivé avec une histoire de dette qui était due il y a 8 ans et qu'il n'avait jamais payé. Je me disais, mais c'est quand même un peu étrange. Tu attends son décès, tu attends 8 ans pour venir à moi me réclamer une dette. Mon père avait beaucoup de défauts, mais avoir des dettes n'en faisait pas partie. C'est quelqu'un qui n'aimait pas du tout ça, donc j'étais sûre, allez, à 99,9% que c'était impossible que cette dette existe. C'était un peu décevant de voir cette personne qui m'avait connue petite, qui avait aussi connu ma maman, et qui tout d'un coup, mon statut change, alors son rapport change par rapport à moi.
À quel moment est-ce que vous décidez et comment de vous lancer dans cette succession professionnelle et pas de tout revendre ?
Je me suis dit, je ne peux pas hériter de tout ça sans fournir un travail derrière. C'est un patrimoine qui a été commencé par mon grand-père, c'est mon père qui l'a continué. Ça aurait été un peu aller à l'encontre de leur mémoire que de me séparer de tout et de dire, bon ben voilà, après tout, je prends le cash et puis allons-y. Donc je vais continuer à gérer son patrimoine comme lui le faisait. Je vais continuer de le gérer là-bas. Et si ça voulait dire ben voilà, me plonger dans ses affaires, essayer de me documenter, de comprendre un maximum de quoi il en retourne, et ben, au moins je me disais que ça pourrait me permettre de mieux gérer l'arrivée de cette fortune dans ma vie. Donc j'ai écrit un email à mon travail actuel et je leur dis bon ben voilà, je suis désolée, il faut que je démissionne, je vous le dis de but en blanc, je ne pourrai pas vous donner les 1 mois ou les 3 mois de préavis requis.
Vous étiez dans quel secteur ?
Moi, j'étais comptable. Petite comptable dans une société. Du moment que je pouvais utiliser mon anglais et que je pouvais m'éclater en comptabilité, moi, ça m'allait. Et du coup, pour mon compagnon, ça a été un petit peu... ça a été compliqué. En même temps, ça n'a pas été compliqué parce que très vite, de lui-même, il m'a dit « Écoute, faire une relation à distance, ça ne va pas être possible. » Il a dû voir mes yeux un peu paniqués. Et il m'a dit, écoute, si ce que tu as compté est vrai, on devrait pouvoir vivre à deux dessus, sans trop de problèmes. Et moi, je lâche mon travail et on vit ça à 100% tous les deux. Du coup, on est comme ça depuis ce jour-là. Et ça se passe plutôt très bien, sachant que tous les hommes n'accepteraient pas que ce soit leur femme qui gagne plus qu'eux. Mais j'ai beaucoup de chance, parce que j'ai un mec moderne. Donc, je suis résidente là-bas. Je partage un peu ma vie entre là-bas et ici, vu que mon compagnon est ici, ma mère est ici, mes demi-frères et sœurs sont ici, mais mon travail est là-bas.
Est-ce qu'il y a eu une déception du fait que vous soyez une fille ? De la part des gens qui allaient gérer son business, parce que c'est souvent des business de père en fils. Là, le fait que à 30 ans, vous débarquez dans ce pays en disant « Bonjour, je suis l'héritière, je vais donc reprendre ce flambeau », ça a peut-être posé question ou pas du tout ?
Alors, si ça l'a fait, ça m'est un peu passé au-dessus, parce que c'était pas... Voilà, il fallait faire avec. De toute façon, que vous vouliez un garçon ou pas, c'est moi. Et puis, moi, je suis arrivée aussi avec toutes mes belles valeurs à la Suisse. Ils disent non, mais il faut mettre l'humain en avant. Donc, je pense que ses employés, ils ont quand même été bien contents. Alors, je suis peut-être passée pour quelqu'un d'un peu plus faible. Je n'étais pas comme lui, un homme de la vieille génération à aboyer plutôt qu'à demander. Mais moi, ça me mettait plus la paix de traiter les gens comme des êtres humains et non pas comme des subalternes moins êtres humains.
C'est combien d'employés ?
L'entreprise actuelle ? On est autour des 2000 ou des 3000 personnes. C'est le secteur industriel, c'est montage et usinage de véhicules.
Comment est-ce que vous vivez là-bas ? À quoi ressemble votre quotidien ?
Là-bas, c'est la belle maison, c'est le grand jardin, c'est la maison avec piscine... C'est des employés de maison, et pourtant moi qui adore cuisiner, j'ai pas le droit de toucher la cuisine là-bas, parce que sinon ça voudrait dire que je prends leur travail, et que du coup ils ne mériteraient pas leur salaire. Donc je m'assieds et je m'apprends aussi avec eux. Alors j'ai aussi un petit peu de chance, parce que j'étais pas tant connue que ça, mais c'est vrai que les gens qui me connaissent, notamment les banquiers et les banquières, c'est toujours des invitations au restaurant, c'est toujours un peu... tirer pour avoir une entrevue avec moi, où finalement je me dis, mais je vais pas ouvrir un autre compte, je vais pas vous acheter plus de trucs, je vais rester à ce que je fais de mieux. C'est certaines personnalités politiques qui me demandent de faire des dons et ensuite qui me demandent un selfie. Alors généralement, je suis là, ok pour le don, mais pas de selfie. J'ai horreur des courbettes, donc ça se termine généralement par un sourire un peu coincé de ma part, un petit rictus un peu crispé. Et je remercie les gens et j'essaye de m'échapper le plus vite possible pour retrouver un peu mon calme et ma sérénité. C'est deux vies finalement complètement différentes, même si c'est la même personne. Mais pour le moment, j'arrive à maintenir une relation saine entre ces deux alter-ego, entre Madame Leïla là-bas et juste Leïla ici. Et c'est vrai que juste Leïla, je la connais bien. je me sens bien dans ses baskets. Et Madame Leila, j'ai un peu plus de peine à enfiler son costume, mais j'ai fait ce choix, donc j'apprends à le mettre. J'apprends à me sentir à l'aise dedans et j'évolue avec tous les jours. Donc c'est un peu une ambivalence un peu permanente. C'est devoir se plier à certaines conventions. On ne va pas à un concert de punk rock en talons aiguilles comme je ne me rends pas à mes réunions d'affaires en basket. Et si je dois sortir un des véhicules de mon père que j'ai récupéré, donc une de ses belles voitures, je vais la sortir pour la réunion d'affaires. Parce que justement, il faut montrer un peu de convention, enfin, il faut honorer les gens avec qui vous participez à ces réunions en arrivant habillé formellement et de préférence dans une belle voiture. Ce qui est un peu idiot ici, mais apparemment là-bas, ça a de la valeur.
Et comment on apprend aussi tous ces codes? Parce que c'est quand même l'expérience ultime du transfuge de classe, là.
Mm-hmm. Alors pour ça, j'ai eu de la chance. Mon compagnon avait de la famille qui venait d'une bonne famille, donc qui avait des connaissances dans ce qu'on appelle l'étiquette. Comment se comporter dans des repas de gala, parler avec son voisin de droite lors de l'entrée, son voisin de gauche au plat principal, aussi certains codes vestimentaires, certaines choses qui ne se font pas, bien que ça, même, ça évolue tellement. Aujourd'hui, il ne faut pas porter ci. Enfin, avant, c'était deux couleurs, sinon trois, ça faisait clown. Maintenant, les formes, les tailles, les couleurs varient. Donc ça va, mais c'est vrai qu'il a fallu que je me penche un peu sur le sujet pour... savoir un peu naviguer dans une position sociale que je ne connaissais pas. Mais au final, j'ai de la chance, je suis assez souple d'esprit et j'apprends assez rapidement.
Est-ce que vous avez le sentiment que le regard de votre belle famille sur vous a changé au moment de cette transition?
Je n'ai pas vraiment l'impression. Enfin, il a changé plus dans le sens où il se sent dit, bon, si on peut l'aider à traverser cette épreuve avec nos conseils... on va le faire. Peut-être qu'ils ont changé de regard, mais d'une manière un peu plus bienveillante, plus parentale. C'est vrai qu'il a changé en bien. Pas par rapport à la fortune, parce que financièrement, je pense que non plus, c'était pas quelque chose d'important. Mais le fait que je me retrouve un petit peu en détresse dans un milieu dans lequel j'avais jamais évolué a fait que ça nous a rapprochés. Parce que c'était une épreuve et on l'a affrontée ensemble. Ils m'ont aidé à l'affronter.
Et une fois que vous aviez trouvé votre rythme de croisière aussi dans ce nouveau milieu professionnel, parce qu'il y a quand même des petites choses que vous avez pris plaisir à vous offrir avec cette fortune qui vous est entre guillemets tombée dessus.
M'offrir, alors bien matériel, non. Moi, j'ai jamais couru après les chaussures de luxe et les beaux sacs ou les beaux bijoux. Encore une fois, les robes de soirée, oui, c'est super. Mais vous la mettez une fois. Et du coup, puisqu'on vous a vu un gala avec cette robe de soirée, ben vous ne pourrez pas la remettre une deuxième fois, parce que ça ne se fait pas. Alors, vous avez dépensé un argent incommensurable pour un bout de tissu qui ne les vaut certainement pas, et tout ça pour la mettre qu'une fois. C'est un petit peu aberrant et ça ne correspond pas du tout à ma manière de voir les choses. Je parlais tout à l'heure d'une culpabilité, et c'est vrai que quelque chose qui m'a mieux permis à supporter un peu ça, c'était de faire des dons, des œuvres de charité, des personnes dans le besoin, aider mes proches. Et puis, c'est vrai que la plus belle dépense que j'ai pu faire, c'est pouvoir mettre ma maman à l'abri financièrement. Ça, c'était important. Et après, pour moi, personnellement, c'est vrai que j'ai pas beaucoup changé ma manière de vivre. En tout cas, pas ici. Je me déplace toujours soit en vélo, soit en transport public. Mais c'est vrai que, un peu finalement comme ce que ma maman m'avait un peu enseigné, c'est si je peux me permettre quelque chose, je me permets des moments. Si je peux me permettre un beau voyage, je le fais. Enfin, je vais peut-être voyager pas en classe économique, mais sur place, je prendrai toujours un Airbnb.
Les 5 étoiles, c'est pas votre truc, quoi.
Non, c'est trop de courbettes, c'est trop de fausseté. Pour moi, ça ne me convient pas.
Et est-ce que vous avez senti que c'était un poids auprès de proches
Non, parce que c'est vrai que les gens dont j'étais pas sûre ou qui auraient pu provoquer ce genre de poids, je les ai pas mis au courant. Enfin, j'ai dû un peu broder, j'ai dû minimiser un peu l'histoire, j'ai dû dire bon, voilà, j'ai dû partir un peu vivre là-bas parce qu'il y a une petite entreprise qu'il faut que je gère. Mais du fait que j'ai pas beaucoup changé ma manière de vivre ici, ça a été facile à cacher. La partie là-bas, c'est un peu plus différent. J'ai des amis qui sont là, « Ah, mais j'aimerais tellement aller là-bas. » Je suis là, « Oui, mais tu sais, j'ai pas la place. Si tu veux, je te donne le nom de super appart-hôtel qui sont pour pas cher, qui sont pas trop loin de la plage, etc. » Mais je redoute un peu le jour où quelqu'un m'attrapera dans mes mensonges, enfin dans ma dissimulation de la vérité. Mais en même temps, si tout le monde était au courant ici, ça rendrait le truc encore plus réel. Ici, c'est presque comme si c'était pas arrivé. Ça reste encore un peu pas concret ici. Et du coup, moins de gens le savent et plus de gens me traitent normalement, mieux je me sens.
Est-ce qu'il y a eu des situations de déchirement, entre guillemets, ou de malaise quand, par exemple, vous sortez avec des amis, l'addition arrive et puis vous savez bien que certains galèrent plus que d'autres, mais en même temps, ça vous trahirait de payer l'addition à chaque fois. Donc, comment est-ce que vous gérez ce genre de petites situations au quotidien?
Alors, pour ça, j'ai de la chance parce que même avant, moi, j'étais toujours généreuse. Moi, j'ai toujours rincé tout le monde, même si je savais que ça allait peut-être me coincer un petit peu pour certaines fins de mois. Et du coup, j'ai pas trop ce déchirement, vu que tout le monde a toujours un petit peu eu l'habitude que je mette la main à la poche. Donc non, j'étais déjà généreuse avant, donc je peux encore plus l'être aujourd'hui. Et c'est vrai que mon compagnon avait tendance à me dire, mais tu sais, ça fait aussi plaisir aux autres de temps en temps t'offrir. Donc t'es pas obligée d'arroser à chaque fois. Et ça, j'ai plus de peine, ouais.
Est-ce qu'il y a des malaises, pour le coup, de gens que vous pouvez ressentir quand on essaye de vous offrir quelque chose et que votre compagnon ou d'autres membres de votre famille ou des amis se rendent peut-être compte que c'est un peu vain de vous offrir des cadeaux matériels?
Non, parce que moi, je suis très bon public. Donc, rien que le fait qu'on ait pensé à moi, c'est déjà tellement gentil que juste la pensée, ça me touche. Ces petites attentions, c'est tout. Ça aura jamais de prix, ce genre de choses. Ouais, c'est ce qui fait les valeurs humaines, les principes finalement que j'ai envie de transmettre à mes enfants. Le prochain défi, c'est comment je vais réussir à maintenir un peu un secret, enfin un halo secret autour du patrimoine que je possède à mes enfants, pour pouvoir les éduquer dans une optique humaine, dans des plaisirs simples, de pouvoir apprécier ce qu'on a, mais de pouvoir quand même faire une transmission meilleure que celle que mon père a faite. Donc quand même les mettre au courant assez rapidement, pouvoir leur permettre de ne pas être surpris et de savoir le gérer, ça va être le prochain défi. Et je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je ne vais certainement pas mettre mes enfants dans des écoles privées. Il faudra qu'ils travaillent pour avoir leur argent de poche, que ce soit à l'école ou un petit job. Hein. Mais en tout cas, pour moi, dans mon idée, c'est important de connaître la valeur de son travail, la valeur de l'argent en soi. Ça vient, ça part. C'est facile de dire ça quand on est dans mon cas, mais ça a plus de valeur quand on l'a obtenu par ses efforts que si on le reçoit tout cuit.
On a l'impression que dans votre cas, ça a un peu remis les choses à leur place dans l'échelle de valeur.
Gagner au loto, ça n'implique pas de perdre quelqu'un. Là, dans mon cas, malheureusement, il a fallu que quelqu'un parte pour que j'aie ça. C'est un petit peu lourd quand même. Oui, c'est incroyable de se dire, voilà, je n'ai plus de soucis à me faire. C'est un confort, c'est une sérénité. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir se lever le matin et se dire, bon, ok, aujourd'hui, ça va aller. Mes factures, elles sont payées. J'ai à manger dans mon frigo. Mon loyer est payé. Tout va bien. Mais si on doit se dire, voilà, lui, il ne reviendra pas. Alors oui, mes factures sont payées, mais lui, je ne pourrais pas demander un échelon de paiement ou quoi que ce soit pour qu'il revienne. Et c'est vrai qu'un deuil normal, entre guillemets, j'aurais pu me raccrocher à des habitudes. Je serais retournée à mon travail, j'aurais continué mes habitudes normales. Mais là, étant donné que ça a complètement bouleversé ce que je connaissais, c'était un peu plus particulier. Je pense que j'ai mis plus de temps qu'une personne qui n'a pas changé de vie à m'en remettre.
Est-ce que vous avez été entourée ou avez cherché à rencontrer des gens qui se trouvaient dans la même situation?
Non, parce que je ne suis pas sûre de connaître beaucoup de gens dans la même situation. En tout cas pas, qui ont été éduqués dans un milieu complètement différent de celui dans lequel j'ai atterri. Après, je connais quelques personnes de familles très riches, mais qui sont nées dedans, qui ont toujours évolué dans ce milieu. Donc, elles ne comprendraient pas mon côté classe moyenne, et les gens du côté de la classe moyenne ne comprendraient pas le côté riche.
Si on parle de la charge que représente la gestion professionnelle de tout ce que vous avez endossé, est-ce qu'il vous arrive de regretter ce choix?
Parfois, oui. Avant, j'avais peu de responsabilités, sinon faire mon travail. J'avais un patron au-dessus de moi. Maintenant, c'est moi le patron. Donc j'ai des grosses responsabilités. C'est mon propre patrimoine que je gère, mais si je le gère mal, c'est à moi-même et à ma maman, enfin aux gens que j'entretiens, que je fais du mal. Donc c'est une pression un peu différente, mais une pression quand même. Et c'est vrai que je regrette les matins où je prenais mon vélo et j'affrontais la pluie en me disant... Oh, bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Une fois arrivée là-bas, je vais me mettre tout de suite à mon Excel, je vais très vite faire ci, et puis ce sera passé, ce sera un mauvais souvenir.
Il y a certainement des gens qui sont en grande détresse financière et qui se disent, oui, enfin bon, toutes ces difficultés sont des, vraiment des problèmes de riches, entre guillemets. Qu'est-ce que vous leur diriez ?
Je leur dirais qu'ils ont raison. C'est les pauvres petits gosses de riches qui pleurent parce qu'ils ont reçu de l'argent, oui, c'est vrai. Eux ont des vrais problèmes. Moi, c'est juste émotionnel, à la limite. Et un jour ou l'autre, je vais m'en remettre. Eux, se sortir d'une condition précaire, c'est vraiment très difficile. Après, j'ai conscience que du jour au lendemain, il y a tout qui peut s'envoler. N'importe quoi, un effondrement économique, une guerre, que sais-je. Et c'est vrai que je me tiens toujours un peu alerte. J'ai toujours des offres d'emploi qui viennent dans ma boîte mail et je les considère. Et chaque fois, j'essaie de me tenir un peu au courant du marché de l'emploi pour pouvoir rebondir un jour si au cas où il arriverait quelque chose.
Quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui hérite d'un coup d'une fortune ?
Il faut être bien entouré. Il faut avoir quelqu'un qui vous rappelle qui vous êtes. Parce que c'est vrai qu'avec beaucoup d'argent, on peut facilement perdre la tête. Et il faut avoir des personnes bien intentionnées qui sauront vous guider sur comment gérer cet argent, quoi faire avec, comment le placer pour le futur, faire en sorte que ce ne soit pas juste de l'argent, mais quelque chose qui continue. Et ne pas s'emballer. Vraiment rester les pieds sur terre. Il faut savoir rester simple, rester humble, tout en pouvant se permettre certains petits plaisirs, parce que sinon, être enterré avec des billets de banque, ça n'a jamais servi personne. Et pensez à ceux qui sont autour de nous, qui sont peut-être dans le besoin, et si on peut leur donner un coup de pouce, bah c'est l'occasion.
Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise-Glace et d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Je suis Célia Héron, cet épisode a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et a été monté par Sylvie Coma. Pour découvrir tous les autres, rendez-vous sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute. À dans 15 jours!